Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone, je vous remercie de prendre part au grand titre du jour. Voici les grands titres qui concernent les gens de foi et les citoyens de bonne foi en ce mardi 7 juin. Dans la presse, les rénovations de la tombe de Jésus débutent. Et oui, en partenariat avec Associated Press, voici ce que nous dit la presse. Des experts ont entamé lundi des rénovations historiques de l'endroit où les chrétiens croient que Jésus a été enterré. Le projet vise à réparer, à renforcer et à protéger l'édicule, la pièce ancienne qui abrite la tombe de Jésus à l'intérieur de l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem. Il s'agit des premiers travaux effectués à cet endroit depuis 1810, quand le sanctuaire avait été rénové après un incendie. Structure élaborée de lampes à l'huile suspendues, de colonnes et de chandeliers géants, l'édicule a été érigé au-dessus de l'endroit où, selon la tradition chrétienne, le corps de Jésus a été oint, enveloppé de tissu et enterré avant sa résurrection. Le site se trouve à quelques centaines de mètres du site de la crucifixion de Jésus. Les catholiques romains, les Grecs orthodoxes et les Arméniens, qui en ont la responsabilité, ont mis de côté leur rivalité, ce qui témoigne de l'urgence des travaux de rénovation. La structure doit être protégée contre les séismes. Les travaux de 3 millions d'euros s'étireront sur une période allant de 8 à 12 mois et le site demeurera accessible aux fidèles pendant ce temps. Chacune des trois églises finance le projet en plus d'une contribution personnelle faite par le roi de la Jordanie, Abdallah, en avril. Les troubles anxieux touchent davantage les femmes et les jeunes. Et oui, c'est ce que nous apprend à la fois la presse et également Le Devoir. Le Devoir va titrer cet article de la façon suivante. Troubles anxieux, les femmes et les jeunes plus touchés. Et je tiens à rappeler, mesdames et messieurs, que ces articles sont accessibles tant sur ma page Facebook publique que sur mon site qui s'intitule « Décentrer le discours ». Accessible sur ericlantier.net. C'est ericlantier.net. Et je poursuis avec les articles du Devoir. En voici un autre. La création d'embryons pour la recherche, une pratique délicate. Et oui, mesdames et messieurs, il s'agit d'une pratique délicate, puisqu'on touche à des enfants à naître. Voici ce que nous dit le Devoir à cet effet. Les Pays-Bas viennent d'autoriser la reproduction d'embryons à des fins de recherche scientifique pour résoudre les problèmes d'infertilité, les échecs de la reproduction médicalement assistée ou prévenir les maladies héréditaires. Sans être un précédent, cette position marginale détonne par rapport à celle de pays industrialisés qui sont beaucoup moins permissifs. Au Canada, en France et en Australie, les scientifiques ne sont autorisés à mener des recherches sur des embryons humains que si ceux-ci ont été créés par fécondation in vitro, pour la procréation assistée et à la condition qu'ils ne fassent plus l'objet d'un projet parental ou que les parents aient donné leur consentement. On nous dit un peu plus loin que quelques pays, notamment l'Allemagne et l'Italie, sont toutefois encore plus restrictifs que le Canada et ses semblables et bannissent toute utilisation d'embryons à des fins autres que procréatrices. Certains pays tels que le Royaume-Uni, la Belgique, la Suède, Israël, Singapour, le Japon et la Chine sont par contre plus souples car ils acceptent la création d'embryons spécifiquement pour la recherche. Maintenant, ce qui est intéressant dans cet article, mesdames et messieurs, c'est que Le Devoir va poser une question très pertinente. Faut-il s'inquiéter de la décision des Pays-Bas? Eh bien, voici ce qu'on nous dit. Tout dépend de la position éthique affichée à l'égard des embryons et du statut qui leur est accordé, poursuit la chercheuse. Si à l'instar des chrétiens, on considère les embryons comme des êtres humains qui ont des droits ou un statut moral, alors le fait de créer un tel être pour ensuite le détruire lors d'expérimentations de recherche est problématique. Si on est complètement contre la destruction des embryons, peu importe qu'ils aient été créés à des fins de procréation assistée ou de recherche, on interdira toute recherche sur les embryons. Mais c'est ça, mesdames et messieurs. Le problème, c'est qu'on est en train de mettre au point un enfant à naître, et là, quand les recherches sont terminées et qu'on n'en a plus besoin parce qu'on ne peut pas l'utiliser, par exemple, pour la procréation assistée, eh bien, on va le détruire. C'est comme si on faisait apparaître biologiquement un être humain, mais qu'on ne l'amène pas à terme parce qu'on désire le détruire. C'est incroyable, ça. Mais vraiment incroyable. On est rendu là, mesdames et messieurs. Et puisqu'on a toujours tendance à évoluer, entre guillemets, eh bien, on va aller de plus en plus loin. On va les garder combien de temps? Un mois, deux mois, six mois? Là, il y a un maximum de 14 jours pour ces embryons-là. Mais éventuellement, si la recherche va plus loin, puis on fait des découvertes, puis on se dit, bien, ça nous prendrait deux mois, trois mois, quatre mois, six mois. Et c'est là qu'est le danger, mesdames et messieurs. Je poursuis avec le devoir. On nous parle également de la réforme du droit familial qui est paralysée. Et oui, j'en ai parlé un peu plus tôt ce printemps. Il était question de donner aux conjoints de fait les mêmes droits que les gens mariés. Pour l'instant, c'est mis sur la glace. Mais croyez-moi, mesdames et messieurs, ça va revenir. La loi actuelle ne permet pas de tenir un référendum soutien un ex-DGE. Eh bien, c'est ce que nous apprend le devoir. Il ne s'agit pas ici d'un référendum sur la souveraineté du Québec. Il s'agit d'un référendum sur la réforme du mode de scrutin. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en bon québécois? C'est qu'aujourd'hui, on a un mode de scrutin, une façon de voter, si on peut résumer ça ainsi, qui fait en sorte que le candidat à une élection qui a le plus de votes devient le député, le représentant de ce comté. Et lorsqu'on additionne tous les élus, eh bien, le parti qui détient le plus grand nombre d'élus forme le gouvernement. Maintenant, ce qu'on veut changer, parce que parfois, lorsqu'on additionne le nombre total de votes, c'est le parti d'opposition qui a reçu au total plus de votes, mais qui a moins de députés. À cause que d'un comté à l'autre, on peut avoir plus d'électeurs, moins d'électeurs, ce n'est pas un chiffre égal. C'est un chiffre qui se rejoint, qui est à peu près le même nombre, mais pas tout à fait le même nombre. Des fois, il peut y avoir des écarts de quelques milliers d'électeurs. Et donc, ce qu'on veut tenter de faire, c'est d'avoir un certain nombre de députés qui sont élus de cette façon-là. Mais, ce qu'on ferait, c'est qu'on ajouterait une liste. Et si, par exemple, le parti au pouvoir a reçu 30 % des intentions de vote, ce qui veut dire que si la liste détient 100 noms pour chaque parti, eh bien, les 30 premiers, si on dit que c'est le Parti libéral qui a gagné, bien, les 30 premiers vont être ajoutés au Parti libéral. Si ensuite les conservateurs ont reçu 20 % des votes, eh bien, il y a 20 candidats conservateurs qui vont être ajoutés. Si le NPD a reçu 18 %, eh bien, il va y avoir 18 députés qui vont être ajoutés pour essayer d'équilibrer ou de rapprocher la représentativité. Mais là, on se bat pour savoir est-ce qu'on doit avoir recours à un référendum pour cela. Et les avis sont partagés à cet effet. Il y a deux bons articles dans l'actualité. La rentabilité de l'égalité. Donc, est-ce que c'est rentable d'avoir plus de femmes à la tête des entreprises ou sur des conseils d'administration de grandes entreprises? On voit que les avis sont partagés. Mais c'est drôlement intéressant de lire cet article-là. Je vous invite à le lire. Et un autre article fort intéressant, « Le retour du papa québécois ». Eh bien, on se demande d'où vient le fait que dans les dernières années, on faisait référence à des pères « losers ». Mais des films comme « Paul à Québec », « Louis Cyr » et la série 19-2 ont contribué à redorer le blason des hommes et, en l'occurrence, des pères. Mais on voit que la publicité continue de présenter l'hétérosexuel blanc âgé de 30 à 45 ans comme un bénet. Et donc, je vous invite à lire cet article-là, qui est fort intéressant et qui doit nous préoccuper, mesdames et messieurs. Avant de vous quitter, mesdames et messieurs, laissez-moi vous rappeler que les liens reliés à ces articles sont accessibles sur Décentrer le discours et sur ma page Facebook via le www.ericlantier.net. C'est le www.ericlantier.net. Sur ce, bonne lecture, bonne réflexion et bons échanges avec les gens de votre entourage. Pour ma part, je vous dis à demain.